Bienvenue au podcast du Groupe RDL. Le Groupe RDL, c'est quoi? C'est un regroupement de cabinets comptables et juridiques situés un peu partout au Québec. En fait, on a 17 places d'affaires. Donc aujourd'hui, le podcast, on parle fiscalité. Pour en parler, on a deux associés en fiscalité, donc Robin, associé en fiscalité à Drummondville, et Alexis, associé en fiscalité également, mais à Victoriaville. Je vais vous laisser vous présenter. Robin, on commence avec toi.
Merci Catherine. Robin Détrault, associé en fiscalité au bureau de Drummondville. Plus d'une trentaine d'années d'expérience en fiscalité. Donc, je suis le plus jeune des deux.
Merci de préciser. Alexis?
Merci, Catherine. Alexis Desilets, associé en fiscalité au bureau de Victoriaville. Ça fait 7 ans que je fais de la fiscalité, donc un petit peu moins que Robin. Mais...
Une petite affaire.
Il apprend pas mal plus vite.
Exact. Fait qu'on est rendu au même niveau.
Donc, en fait, on a plusieurs choses à démystifier aujourd'hui. Il y a plein de sujets, plein de termes super intéressants sur la fiscalité. On s'entend que c'est peut-être pas quelque chose qui est très connu, même pour les entrepreneurs qui sont en fait nos clients cibles. Ils savent pas l'étendue du travail que vous pouvez faire pour eux, comment vous pouvez collaborer. Donc, plusieurs thèmes. Alexis, Robin, allez-y comme vous le sentez. J'ai vraiment besoin que vous veniez expliquer c'est quoi de la réorganisation fiscale. Vous parlez souvent de fiducie, incorporation, création de gestion, sécurisation d'actifs. Aidez-nous.
Bon, je vais laisser la jeunesse parler en premier.
Bien, réorganisation fiscale, c'est un terme effectivement assez vague qui englobe beaucoup, beaucoup d'aspects, entre autres, comme tu dis, les fiducies qui représentent un... On dirait que les gens pensent souvent qu'on crée des fiducies au quotidien, qu'on en fait beaucoup, mais pas tant que ça quand même. C'est ça, ça l'englobe vraiment. Ça peut être de l'acquisition d'entreprise, ça peut être de l'intégration d'employés. Donc, réorganisation fiscale, c'est vraiment un terme qui est large, okay. Mais c'est ce qu'on fait au quotidien.
Parfait. Puis fiducie.
Oui.
C'est quoi une fiducie?
Ben écoute, ça date de très longtemps. C'est prévu, au Québec, c'est prévu dans le Code civil. Fait que quand on part une fiducie, là, les gens sont toujours étonnés. C'est très archaïque comme méthode.
Okay.
Mais ça permet beaucoup de flexibilité au niveau de la fiscalité. Ça nous permet d'économiser de l'impôt. Ça peut être de l'impôt au moment de la vente d'actions. Ça peut être de l'impôt au décès d'un actionnaire. Donc, c'est vraiment un outil très flexible qui est vraiment pertinent dans plusieurs situations. C'est vraiment du cas par cas, mais c'est un outil très, très puissant, souvent sous-utilisé.
Ben justement, Robert, avec tes 30 ans d'expérience, aurais-tu une anecdote d'une fiducie pertinente et intéressante?
Ben, je vais donner un exemple très concret. Mon beau-père, on avait mis une fiducie en place. À chaque party de Noël, il me disait, ta fiducie, là, elle sert à rien, je m'en suis pas servi, je m'en suis, etc. Mais quand il a vendu son entreprise, puis il a pu utiliser l'exonération, là, un allègement fiscal là,
okay.
Qui permet de vendre des actions libres d'impôts.
Okay.
Aujourd'hui, c'est un peu plus que 1,2 million qu'on peut vendre des actions sans avoir d'impôts. C'est bien structuré.
Oui, oui.
Avec des fiducies, ben c'est drôle, c'est moi qui le voyais au party de Noël, il me dit, puis ma fiducie qui t'a sauvé plusieurs centaines de milliers de dollars à ce moment-là.
Okay.
Fait que des fois, c'est des... Il y a des avantages qui sont immédiats. Fait que des fois, c'est facile de faire comprendre. Il voit tout de suite le résultat. Mais des fois, c'est comme des actions boursières. Des fois, tu fais un investissement à long terme. Il y a des investissements à court terme. Les fiducies peuvent emmener des avantages court terme. Mais dans ce cas-là, c'était vraiment un avantage long terme. Au bout de 7 ans. Ça a pris 6 parties de Noël, là. Que j'ai tout entouré ça.
Ouais, c'est...
Mais, il était vraiment content, là.
Fait que c'est une stratégie que vous anticipez qu'éventuellement, vous allez en avoir besoin. Donc, comme tu dis, c'est pas nécessairement sur le coup, c'est pas nécessairement à court terme, mais ça va être bénéfique assurément un jour ou l'autre.
Puis ce qu'on doit arbitrer, c'est qu'il y a des zones grises.
Mm-hmm.
Il y a des personnes qui ont des belles business, qui croient très rapidement, mais sont pas vieux. Puis il y a des règles quand même fiscales. Parce que le fiducie, c'est comme un humain qui, à toutes les 21 ans, c'est comme s'il mourait. Fait qu'il doit faire des choix fiscaux à toutes les 21 ans. Fait que c'est comme si tu disais, moi, je mets ça dans une fiducie pour ma prochaine génération qui est 21 ans plus jeune que moi, mais l'impôt, il dit, hey, ça serait trop facile de reporter l'impôt à vie, on dit, parce qu'une fiducie ne meurt pas. Okay. Fait qu'elle ne décède jamais. Fait que c'est un des avantages d'utiliser une fiducie. La situation qu'on ne veut pas vivre, là, c'est de la mettre trop tard.
Qu'est-ce que ça arrive beaucoup trop souvent. Si, mettons, on l'a fait trop tard, c'est quoi les impacts de ça?
Le mot, l'expression, je dirais, c'est de laisser de l'argent sur la table. Ça veut dire qu'on va payer de l'impôt qu'on n'aurait pas dû payer. On est chanceux en fiscalité parce qu'on est quand même habituellement capable de retomber avec des solutions alternatives. Et des fois, il est juste trop tard. Tu viens me voir, tu dis, écoute, hey, j'ai un deal, là, puis je vais vendre mon entreprise. Puis la fiducie n'existe pas. Puis j'ai beau dire, il y a des critères d'au moins 2 ans, ces choses-là. Fait qu'il y a un momentum, là, il y a quand même un calendrier. Il est toujours mieux de la mettre trop tôt que trop tard.
C'est à quel moment que vous intervenez, vous, les fiscalistes, puis qu'on dit, y aurait-il une fiducie à faire? Parce que ça doit pas être souvent les entrepreneurs qui viennent vers vous pour dire, fais une fiducie, tu sais.
Effectivement, il y a vraiment un timing à respecter, puis ça dépend de plusieurs facteurs, tu sais. L'intention de l'entrepreneur, est-ce qu'il pense vendre dans 10 ans, dans 15 ans? Est-ce que lui, il doit encore travailler pendant 30 ans?
Okay.
Tu considères l'âge de l'entrepreneur, mais également son horizon, savoir quand il va vouloir vendre. Okay. C'est d'où l'importance du fameux 21 ans. T'sais, si on pense vendre dans 25 ans, c'est peut-être pas le bon timing de mettre en place une fiducie. Mais le danger, ce qu'on voit des fois, c'est de mettre la fiducie un peu trop tard. On l'a déjà proposé au client qui, pour une raison quelconque, voulait rien savoir.
Ouais.
Il y a une offre sur la table, il vient nous voir. Hey, finalement, j'aimerais partir ma fiducie. Il est un peu trop tard. Des fois, on peut tricoter, mais des fois, on laisse de l'argent sur la table, malheureusement.
Je comprends.
Puis il y a bien d'autres avantages qu'on n'a pas parlé. On a parlé vraiment de l'allègement fiscal au moment de la revente. Mais en cours, avant la vente, il y a aussi des avantages qui sont intéressants. En cas de décès, entre autres, aussi. Parce que, comme je disais tantôt, le fiducie ne décède pas. C'est l'individu, c'est ça, exactement.
Ça, c'était quoi, exemple, l'avantage qu'il y aurait si l'entrepreneur décède?
Je vais prendre le cas, l'entrepreneur, pour une raison ou une autre, décède de façon anticipée. C'était pas prévu, ces choses-là. Puis, son désir, c'est que ça aille à ses enfants.
Ouais.
Mais s'il n'y a pas de fiducie, il va payer l'impôt sur les actions au moment du décès.
Okay.
Alors que si dans la fiducie, la transmission peut se faire libre d'impôt à un enfant. Fait que si je veux intégrer un enfant dans mon actionnariat dans le futur, ben si je lui vends mes actions, je suis obligé de passer à l'impôt. Mais si je passe à travers la fiducie et je fais l'attribution, ben je suis capable de donner ou de transférer les actions, tout ça libre d'impôt, comme si ça avait toujours appartenu à un enfant.
On en a des entrepreneurs, on a un dossier qu'on a travaillé ensemble.
Ouais.
Des fois, des entrepreneurs très fortunés, on a tendance à penser que en cas de décès, ils vont payer des millions d'impôts, mais à leur nom personnel, des fois, ils ont très peu de valeur, puisque justement, leur valeur qui leur est indirectement à eux est détenue via une fiducie. Fait qu'il arrive un décès, on paye.
Et protégé.
Effectivement, c'est ça. Il n'y a pratiquement pas d'impôts. Il peut être transféré à l'autre génération libre d'impôts.
On a parlé de fiducie, beaucoup plus clair, merci. Incorporation maintenant? Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? Est-ce que toutes les entreprises, en fait, devraient s'incorporer? Est-ce que ce serait un mécanisme qui devrait être fait ou, au contraire, il y a plusieurs facteurs à vérifier? Puis qu'est-ce que vous vérifiez de votre côté?
C'est une des premières questions. Quand tu commences aussi ta carrière, souvent, le genre de client que tu rencontres, c'est des travailleurs autonomes qui vont s'incorporer ou qui peut-être pourraient s'incorporer. Mais avant, est-ce que ça vaut la peine de s'incorporer?
Ouais.
Il y a plusieurs facteurs, mais souvent, c'est l'utilisation. Si je pourrais gagner 1 million de profit, mais j'utilise ce million-là pour dépenser, m'acheter des voitures, des chalets, dépenser à l'envoyage, etc., c'est peut-être mieux de reporter l'incorporation au moment où tu vas faire de l'épargne. Parce que, comme on sait, il y a un impôt dans la société qui est faible, à 12 ou à 26 % et un impôt personnel qui est plus élevé. On peut aller jusqu'à 53 %
OK.
Mais si je prends tout l'argent puis je le ressors, l'intégration de l'impôt est... Revenu Canada et Revenu Québec sont pas fous. Là. Ils se sont dit, c'est fait pour... Je te laisse, je mets un petit taux d'impôt dans la corporation pour que tu puisses réinvestir, créer des jobs. Mais quand ça va ressortir, l'argent personnel, je vais te reprendre en impôt puis ça va revenir au même mécanisme d'impôt.
OK, je comprends.
À peu près similaire. L'intégration n'est pas parfaite. On joue là-dessus aussi, des fois, au niveau de la fiscalité. Mais si tu ressors tout l'argent, il n'y a pas d'avantage à le faire. Mais par contre, quelqu'un qui gagne 400 000, mais qui dit, hey, j'ai 250 000, j'économise 100 000 par année, mais lui, il est peut-être mieux de payer 12 % d'impôt sur son revenu que d'en payer 53 au niveau personnel. Fait que c'est pour ça que c'est pas une question nécessairement... Il n'y a pas 1 plus 1 égale 2 là-dedans.
Ouais,
il y a beaucoup de l'arbitrage à faire, c'est ça, exact. Okay. C'est quoi sa structure familiale? Ses enfants travaillent dans le business, sa conjointe, ces choses-là? Est-ce qu'on peut faire du fractionnement? Fait qu'il y a des choses à regarder à ce niveau-là.
Création d'une gestion, on voulait discuter de ça aussi. Alexis, veux-tu nous expliquer un peu ce que c'est?
Ben ça, c'est une question qu'on se fait souvent poser parce que souvent, ils entendent de quelqu'un d'autre que lui, il a une gestion, en fait.
Okay.
Nécessairement, si l'autre, il y en a une, j'en ai besoin. C'est sûr que j'en ai besoin.
C'est bon.
On en prend deux.
Fait que souvent, on entend la question, est-ce que c'est pertinent dans mon cas de me partir d'une société de gestion? Malheureusement, la réponse est souvent, ça dépend. Encore une fois, ça dépend des objectifs court, moyen terme, ça dépend des fonds qu'on génère annuellement. Règle générale, la gestion est souvent pertinente le jour où ce qu'on commence à cumuler des surplus de fonds dans l'entreprise. Fait que je prends l'exemple d'une société opérante qui fait plus de revenus que ce qui a besoin d'investissement annuellement. Donc, on cumule 100 000 dans le compte. Première année, c'est pas pire. Parfait. Deuxième, troisième année, quatrième année, on est rendu à 400 000 dans le compte.
Ouais.
C'est peut-être le moment de le sortir, l'argent.
OK.
Si on oublie la gestion, on sort l'argent dans nos mains personnelles, c'est là qu'on va payer de l'impôt. En planifiant les choses de la bonne façon, on peut envoyer les surplus de fonds dans la gestion sans payer d'impôts. Donc, quoi, c'est un report d'impôts. Tant qu'elle reste dans la gestion, on ne paye pas d'impôts. Le jour qu'on veut s'assortir personnellement, il y a un autre impôt qui s'implique. Mais c'est vraiment quand on commence à générer des surplus de fonds que la gestion devient avantageuse.
Qu'est-ce qui peut arriver si une entreprise laisse ses surplus dans l'entreprise, en fait, puis ne va pas sortir ça ou qu'est-ce qui se passe?
Ben, il y a plusieurs problèmes qui peuvent en découler. Okay. Il y a des problèmes fiscaux.
Ouais.
Tantôt, on parlait d'un incitatif là, qu'on pouvait vendre libre d'impôts jusqu'à un certain montant qui dépasse 1,2 million. Sans entrer dans les détails, pour avoir le droit à ça, on a certains critères à respecter. si on a trop dans la caisse, on ne pourra pas vendre l'entreprise en se qualifiant. Mais au-delà de la fiscalité, il y a aussi un aspect de sécurisation, un aspect légal. Si on cumule des fonds dans une entreprise et pour une raison quelconque, on est fautif dans l'exploitation de l'entreprise, on a une poursuite ou quoi que ce soit, il faut comprendre que c'est la société qui se fait poursuivre. Ouais. Donc, ils peuvent aller chercher les surplus de fonds. Si on est redevable d'un million, ils peuvent aller chercher les surplus de fonds. Donc, tout le gagné qu'on a travaillé fort à travers les années pour cumuler, on pourrait venir le chercher. D'où l'importance de la gestion. S'il est envoyé dans la gestion, on pourrait venir sécuriser certains fonds pour être certain que ça serait à l'abri.
OK, c'est intéressant.
Puis encore une fois, ça, c'est à faire attention parce que des fois, c'est dans un contexte que, sans dire que le trouble est pogné, mais si la poursuite est déjà en cours, c'est peut-être pas le moment de créer la gestion pour envoyer les fonds. Ça fait se prendre d'avance.
Oui.
Exactement, c'est ça.
Donc, ça, je comprends que la création de gestion, on permet de sécuriser, dans le fond, l'entreprise comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de sécurisation d'actifs qui peuvent être intéressants pour les entrepreneurs?
Oui, puis je veux juste faire un petit pas en arrière. Tu sais, souvent, nos entrepreneurs, une fois qu'on a fini nos réorganisations, ils ont beaucoup de boîtes, là, ce qu'on appelle des compagnies, une gestion, une opérante.
L'architecture
est un peu complexe, mais ce qui fait la force d'un fiscaliste, c'est de justifier que chaque structure est justifiée.
Okay.
Tantôt, on a parlé de la fiducie. Dans cette structure-là, est justifiée. Sa gestion, l'incorporation est justifiée. On vient de justifier la gestion. La sécurisation d'autres actifs, que ce soit de l'équipement ou des bâtisses, bien, c'est pour les mêmes raisons qu'au lieu d'être de l'argent, bien, si j'ai une poursuite, bien, je voudrais sécuriser ma bâtisse. Ça, c'est au niveau légal, mais aussi au niveau fiscal. C'est que si je veux vendre ma bâtisse à part de mon opérante, ça peut arriver que je ne les vende pas aux mêmes personnes.
Ouais.
Bien, c'est beaucoup plus facile de le vendre parce qu'ils sont déjà séparés. Puis, je pourrais avoir des actionnaires différents dans ma bâtisse de mon opérante. Exemple, je veux que tu deviennes actionnaire avec moi. Tu es la meilleure de mon opération chez nous. Tu es ma directrice générale. Mais la bâtisse, là, c'est ma famille. Ça vient de mon grand-père, etc. Je peux sortir la bâtisse quelques années avant que tu deviennes actionnaire. Là. Il y a des choses à respecter. Mais si je l'ai bien imaginé, tout ça peut se faire libre d'impôts si on l'a bien fait d'avance. Et je pourrais vendre cette bâtisse-là. Mais les actions, toi, tu prends de la valeur dans la société opérante à laquelle tu as une influence. Mais la bâtisse, c'est une décision d'investissement, c'est une décision de financement, de la structure financière. Fait que des fois, ça peut être aussi, pas juste fiscal, mais pour introduire des employés clés ou des personnes importantes dans ta société. Ça peut être aussi un important de scinder les choses.
Donc, si on résume en fait là, tout ce qu'on vient de dire, vous, les fiscalistes, vous êtes là pour vraiment aider à planifier le futur des entrepreneurs de leur entreprise, en fait. Là. C'est beaucoup ça, votre utilité auprès d'eux. C'est bien ça?
Exact. Dans le fond, là, c'est de créer de la valeur. Honnêtement, là, parce qu'on voit ça comme un rapport d'impôt. Tu sais, les gens, là, faut, ils voient, là, ah, il a fait mon rapport d'impôt, c'est un fiscaliste. C'est, la notion de fiscalité, là, ça peut être large comme la notion de comptabilité. Là.
Oui.
Tu peux faire de la tenue libre, tu es un comptable, puis tu peux faire du financement pour des clients, tu es un comptable. Mais en fiscalité aussi, là, il y a les déclarations d'impôts. La conformité, c'est très, très important. Mais nous, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment l'architecture. J'aime le terme que tu disais, c'est de mettre une architecture qui est performante, qui laisse le plus de sous dans les poches de l'entrepreneur pour qu'il puisse faire ses projets. Ça veut dire que nous, on essaie de mettre le plus de sous dans leur poche. Comment on minimise ça? Puis, c'est pas de l'évasion fiscale. Là.
Non.
Tantôt, on a parlé de l'exonération du gain capital, le 1,2 million libre d'impôt. Ça, c'est un impôt permanent sauvé. Mais, comme Alexis l'a dit tantôt, quand on envoie ça dans les gestions, c'est des reports d'impôt. Pourquoi? Pour qu'il y ait plus d'argent à réinvestir ou à placer pour son fonds de pension.
Ouais.
Parce que le fonds de pension d'un entrepreneur, c'est son entreprise puis les sous qu'il a accumulés en cours de route sur lesquels il a payé un plus petit taux d'impôt tant qu'il garde ça dans les sociétés.
Mais une bonne structure fiscale, ça tient non seulement compte des impôts, sauver de l'impôt à court terme, mais également sauver de l'impôt lors de la revente à long terme.
C'est ça.
Et même dans des projets d'investissement, il faut toujours penser à toutes les avenues, mais si on a certains projets d'investissement, c'est important de bien le monter. Si jamais on fait des pertes dans certains projets, ben c'est pas le scénario qu'on veut envisager, mais si jamais on s'en va là, ben au moins on va optimiser la fiscalité en l'ayant mis de la bonne façon dès le départ.
Pour terminer, en fait, j'aimerais ça, Alexis, si tu peux répondre, ça serait quoi l'avantage pour un client de choisir l'équipe de fiscalistes du groupe ADL versus une autre équipe de fiscalistes d'un autre cabinet comptable?
L'avantage de faire affaire avec le groupe ADL, non seulement à l'interne, dans l'équipe de fiscalité, on a plusieurs expertises. On a, par exemple, des spécialistes en fiducie, comme Robin le mentionnait. Il y en a qui sont spécialisés dans la planification successorale. Mais aussi, au sein du groupe, on a des spécialistes en TPS-TVQ, on a des spécialistes en évaluation, il y en a qui se spécialisent en certification pour faire les fins d'exercice. Donc, c'est vraiment un peu un clé en main pour vraiment prendre de A à Z le client, vraiment l'optimiser de A à Z. On a même un service juridique donc que ce soit de la rédaction de testament, rédaction de convention fractionnaire, tout peut être arrimé, justement, vu que la structure est vivante, on peut continuellement s'adapter pour mieux le servir.
Absolument, c'est un très bon point. Merci.